La mission évangélique Vase d'honneur a le plaisir de vous présenter le message du pasteur Mohamed Sanogo, premier responsable de l'église. Nous vous souhaitons un agréable moment à l'écoute de la parole.
Ah, je vous salue dans le nom de Jésus. Vraiment, je suis toujours très content de partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le contexte de notre enseignement. Nous tendons vers la fin de la deuxième porte. Amen. Juste rappeler un peu de quoi il s'agit, parce qu'il y a des personnes là qui n'ont pas suivi depuis le début. Nous sommes en train d'évoluer selon une révélation que Dieu nous a donnée en fin d'année dernière. Dans ce que le Seigneur nous a dit, c'est que la bénédiction d'une personne est constituée de 12 domaines, de 12 portes, de 12 actions particulières. Et ces 12 actions sont citées dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Le Seigneur cite exactement 12 bénédictions. Amen. Ces bénédictions, lorsqu'une personne les manifeste entièrement, elle se sent véritablement comblée. Nous avons expliqué aussi que des hommes, mais par votre attitude, vous êtes déjà arrivés à ouvrir sûrement certaines portes. Les autres portes, si elles ne sont pas ouvertes, n'est-ce pas, produisent dans vos vies des effets que vous sentez, qui vous attristent, qui vous donnent des challenges à atteindre. Amen. Et le Seigneur nous a conduit à dire que cette année, 2007, nous devrons ouvrir une porte par mois. Alléluia. La première porte dont nous avons parlé, amen, nous donnons des enseignements qui tournent autour de ces portes et qui doivent créer en nous la foi et nous montrer les clés pour les manifester. La première porte, hein, la porte de Ruben. Amen. Et j'expliquais aussi que les portes étaient liées aux 12 tribus d'Israël. Alléluia. En donnant cet exemple que lorsqu'Israël devait entrer dans la terre promise, Dieu a demandé à ce que 12 personnes représentant les 12 tribus d'Israël puissent entrer en Canaan, espionner, regarder l'endroit et venir faire un rapport qui allait permettre à Israël d'entrer dans la terre promise. Lorsque ces 12 sont revenus, 10 parmi elles ont rejeté la faveur de Dieu. On dit que c'était impossible. C'est un territoire beau, mais impossible à prendre. Ces hommes-là n'ont pas eu la foi en la parole de Dieu. Ils ont eu la foi dans les choses qu'ils voyaient, dans les oppositions qu'ils voyaient. Et 2 parmi ces 12 ont glorifié l'Éternel. C'est-à-dire Josué et Caleb. Amen. À cause de cette attitude, Dieu a fait qu'Israël a tourné encore pendant pratiquement 40 ans dans le désert. Mais ce qu'on a constaté, c'est que lorsqu'Israël est rentré dans la terre promise, la faveur même de la terre promise a été octroyée aux tribus qui avaient reconnu la puissance de Dieu, qui ne s'étaient pas liguées contre l'Éternel à l'entrée de la terre promise. Amen. Et on a vu que la royauté leur a été accordée. Alléluia. La tribu qui avait accepté l'Éternel, qui avait cru en Dieu, c'était la tribu de Juda avec Caleb. C'était la première à confesser la victoire. Il y avait douze entrées en Israël. 12 entrées, il y avait 12 portes pour prendre Canaan. Les 12 sont partis, à 10 qui n'ont pas pris leur Canaan. Amen. Et je dis ceci, c'est que tu peux ouvrir des portes de faveur dans ta vie, mais ne pas ouvrir, tu peux ouvrir certaines portes et ne pas les ouvrir entièrement. Ce que tu vas sentir, par exemple, si tu ouvres la porte, la deuxième dont nous sommes en train de parler, qui dit, je bénirai tes entrailles. Ce que ça veut dans ta vie, c'est que physiquement, tu vas avoir des enfants, mais quand Dieu bénit tes entrailles, c'est que tu es productif sur le plan intellectuel. C'est-à-dire, tu as des idées, tu produis, tu es créatif. Amen. Tu as des idées d'entreprise, tu as des projets. Mais cette porte-là, cette faveur-là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir beaucoup d'idées. C'est une faveur. Il y en a qui ne pensent pas, il y en a qui n'arrivent pas à crier. C'est une faveur. Amen. Tu peux l'avoir, mais ne pas avoir la faveur qui multiplie tes projets. Donc, la plupart des idées que tu as, n'est-ce pas, n'arrivent pas à se multiplier. Or, la Bible dit, soyez féconds. Alléluia. Donc, être fécond, c'est-à-dire produire, avoir des idées, n'est pas suffisant. Il faut encore d'autres choses. Amen. C'est ainsi que nous avons présenté les 12 faveurs, les 12 bénédictions, les 12 portes que nous devons ouvrir. On a dit donc que chaque bénédiction, chaque faveur s'ouvre par une porte. La première des portes, c'est la porte de Ruben, dit, tu seras béni dans la campagne, tu seras béni dans la ville. Et nous avons expliqué que c'est la bénédiction territoriale. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que Dieu va vouloir vous bénir, Dieu va étendre sa main. La première chose qu'il a envie de faire dans votre vie, c'est de vous donner un lieu où il va déverser sur vous sa grâce. C'est ce qu'il traduit en disant, tu seras béni dans la campagne, tu seras béni dans la ville. Et j'ai dit, c'est vrai que cette année 2007, on va ouvrir les 12 portes. Mais ça veut dire qu'on n'a pas 2008, on n'a pas 2009. Toutes ces années vont arriver. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que chaque année, il y a un domaine dans lequel Dieu veut te bénir. Amen. Vous savez, il y a 12 portes et il y a 12 mois dans l'année. Chaque année, tu dois trouver, parce qu'un lieu, ce n'est pas forcément une zone géographique. Un lieu, c'est aussi un domaine d'activité. C'est un domaine d'action. Amen. Donc, chaque année, il y a un domaine dans lequel Dieu va te bénir. Même si tu travailles déjà dans une entreprise. Amen. Dieu peut te dire, cette année dans l'entreprise-là, concentre-toi sur tel type d'activité. Amen. Concentre-toi sur tel domaine dans ta boîte. Lorsque tu vas te mettre dans ce secteur-là, tu verras que l'Éternel va te bénir, pardon. L'Éternel va faire fructifier ce que tu vas toucher. Amen. Donc l'Éternel, d'abord, la première porte, c'est de te donner ce qu'on appelle la bénédiction du territoire. Ça, c'est la première porte que nous avons ouverte. Amen. Et plusieurs entre nous ont reçu, et c'était continuer à recevoir, le domaine, l'activité, le domaine dans lequel Dieu va déverser en eux sa faveur, l'endroit où la grâce de Dieu sera manifestée, ce que nous avons appelé la bénédiction du territoire. Amen. Le mois de février nous a donné d'ouvrir la deuxième porte. Amen. Dieu dit, quand tu vas ouvrir cette porte, le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de ton sol sera béni. Les portées de ton gros et de ton mini bétail seront bénies. Quand Dieu dit le fruit de tes entrailles sera béni, ça veut dire quoi? Que ce qui va sortir de toi va avoir la faveur de Dieu. Amen. Cette bénédiction parle, c'est vrai, de la bénédiction physique, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Mais elle dit que Dieu va te rendre fécond. Ton intelligence va commencer à se déployer. Tu vas avoir des idées. Alléluia. Et je vous expliquais que ce sont les idées, ce que Dieu a mis d'original en vous, qui va vous distinguer. Et c'est ce qui va vous ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. Ce qui va vous identifier dans le monde, ce qui fait de vous quelqu'un de valeur, ce qui va vous ouvrir la porte de la prospérité, ce qui fera en sorte que vous serez la tête et non la queue, c'est toujours quelque chose d'original. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait. Amen. Vous ne pouvez pas manifester ce que les autres ont toujours fait et puis croire, n'est-ce pas, que vous aurez un résultat supérieur à ce qu'ils ont manifesté. Amen. Oui. Vous savez, les gens, on ne va pas forcément t'embaucher. Depuis là, tu fais les gens, l'honneur ne te prend pas. Mais peut-être que tu n'es pas fait pour une entreprise, frère. Tu dois créer ta propre boîte. Le diable te fait croire que tu n'es pas une créature merveilleuse. Mais c'est faux. Tu sais, on ne peut pas choisir les circonstances de la naissance. Tu ne peux pas choisir ta famille. Peut-être que quelques-uns vont vous sonner dans des situations de pauvreté extrême. Mais je t'assure que si Dieu a permis que toi tu naisses là-bas, c'est parce qu'il se trouve en toi toutes les capacités, la foi, capable de surmonter la situation. Alléluia! Mais tant que tu écouteras les bruits du dehors, les gens qui vont dire ce qu'ils ont fini de dire de toi, qu'un pauvre ici ne peut pas réussir dans ce pays-là, il faut naître dans telle famille. Si tu écoutes ces choses, tu ne pourras jamais manifester la foi. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Ce que Dieu dit, ou même tu ne crois pas en la Bible. Alléluia! Tout homme peut réussir. La Bible dit ces choses. Tout est possible à celui qui croit. Et cette parole est tellement vraie que Dieu a voulu nous montrer que cette règle-là, tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un demande à Jésus, « Ah Seigneur, si tu peux. » Il dit, « Mon frère, si je peux, tout est possible. » Ça veut dire, il n'y a rien d'impossible pour une personne qui a la foi. L'exemple de la femme syrophénicienne dont nous venons de parler, nous avons parlé dimanche, n'est-ce pas? Cet exemple-là nous démontre que Dieu fait des miracles dans la vie de celui qui croit, même s'il n'était pas prévu initialement. C'est ce que tu veux nous démontrer. Il dit que la foi est capable de produire un résultat, même quand Dieu ne t'avait pas prévu dans le résultat. En fait, on sait que Dieu est souverain, Dieu prévoit toujours tout. Amen. Et vous connaissez ce passage-là. Un jour, la Bible dit que Jésus est en train de marcher. Il est arrivé, il a vu un figuier. Le figuier ne donnait pas son fruit. La Bible dit que le figuier n'avait pas porté son fruit, ne donnait pas du fruit, parce que ce n'était pas la saison. Alléluia. Imaginez-vous que Jésus arrive dans le mois de juillet et puis il cherche une mangue dans un arbre. Ah, mais est-ce que vous croyez que Jésus n'était pas conscient de ce qui s'est passé? Quand même, il avait près de 30 ans. Est-ce que tu peux vivre 30 ans dans une région sans connaître les saisons? Jésus arrive vers cet arbre. L'arbre ne donne pas son fruit. La Bible dit très clairement parce que ce n'était pas la saison des figues. Il a maudit l'arbre. La Bible dit l'arbre a séché. Quand l'arbre a séché, les disciples sont venus étonner, mais Seigneur, mais comment ça se passe? Il a dit, si vous croyez, vous pourrez réaliser toutes choses. Non seulement vous pourrez faire sécher les arbres, vous pourrez dire à cette montagne de se déplacer. Qu'est-ce que Jésus a voulu montrer dans ce passage? C'est que même quand tu n'as pas raison, Parce que Jésus n'a pas raison de maudire l'arbre. Parce que c'est lui-même qui a créé les saisons. L'arbre ne donne pas le fruit, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que ce n'est pas la saison. Mais Jésus avait voulu donner une leçon à ses disciples. Et c'est là qu'il leur a parlé de la foi. Il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, tout ce que vous demandez en priant, vous allez l'obtenir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, ce sont des choses qu'on répète très souvent. Mais il faut que vous puissiez les vivre. Alors, ce que je vais vous expliquer rapidement ce soir, en parlant de ce qui fait avorter la vision, en fait, ce sont les éléments qui viennent vous faire douter. Parce que la foi, vous savez, ce n'est pas simplement le fait de continuer à venir à l'église. C'est une attitude, c'est un comportement. C'est pourquoi Dieu peut dire la foi sans les œuvres est morte. En fait, la foi est liée aux œuvres. Ça veut dire la foi produit la foi produit une activité. La foi produit une façon de marcher. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit et puis il reste assis chez lui. Vous savez, la foi produit une action. Alléluia. Et comment dirais-je, autour de vous se dresse une certaine adversité qui vient s'opposer à votre foi. Tout le secret en fait des portes, tout ce qu'on explique, la majeure partie en fait, toutes les portes s'ouvrent par la foi. Alléluia. Mais des aspects particuliers de la foi, c'est quelquefois par la foi qu'on arrive à convaincre la sanctification, parce qu'on croit que ce que Dieu dit est vrai. La Bible déclare que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut croire. Si vous dites que vous avez la foi et que vous faiblissez devant l'adversité, c'est que vous ne l'avez pas. Amen. Alors, je vais vous parler de quelques points essentiels, n'est-ce pas? Des choses qui vont faire avorter votre vision. Il faut d'abord, c'est vrai, que vous puissiez croire en Dieu. Que vous puissiez croire que Dieu vous a fait de vous des créatures merveilleuses. Il faut le croire. Il faut le croire. C'est un doute de croire que vous êtes nul, que vous êtes une personne rejetée parce que les gens vous le disent. C'est ne pas croire en Dieu. Croire que vous faites pitié, que vous êtes malheureux, misérable, c'est ne pas croire en Dieu. Alléluia. Croire que vous, dans la vie, vous risquez de mourir pauvre, de mourir misérable, c'est ne pas croire en Dieu. C'est de dire peut-être dans votre bouche que Dieu est vivant, mais en réalité, vous ne le croyez, vous ne croyez pas en lui. Vous croyez que la Bible n'est pas une parole vraie. Amen. Ah, Matthieu 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Matthieu 11, 23, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Alléluia. Je viens encore ce passage dont je parlais. Le matin, en retournant à la ville, il lui fait. Il vient figuer sur le chemin, s'en approcha. Mais il ne trouva pas, il ne trouva que des feuilles. Et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette ville, les disciples furent dans l'admiration et dit, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Hébreux chapitre 10, verset 38, retenez ceci, mon juste vivra par la foi. La vie du chrétien est une vie de foi. Dieu ne va pas te laisser vivre dans la logique. Dieu, si le Seigneur t'aime, pourquoi Dieu veut que le juste vive par la foi? Si vous n'êtes pas sauvé par la foi, vous devez être sauvé par les œuvres. N'est-ce pas? Vous comprenez? Mais Dieu sait que s'il veut, comment dirais-je, récompenser les hommes par leurs œuvres, aucun homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu ne pourras rien avoir, rien obtenir. Parce qu'aucun de nous ne mérite quelque chose devant Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour acheter Dieu? Adam et Ève ont commis un seul péché et puis Dieu les a chassés du ciel. Donc tu vas venir dire quoi? Parce que hier tu étais gentil à les gens. Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti. Donc tu dis, ah Dieu, à cause de cela, je mérite que tu m'accordes des millions. Non. Parce que si Dieu veut peser, si Dieu veut regarder au mérite, aucun homme n'obtiendra quelque chose. Alors tu as décidé que le salut se tenait par la foi. Il faut croire, c'est tout. Maintenant, pour croire en quoi c'est compliqué? Amen. C'est pourquoi l'Éternel est fâché devant les gens qui sont incrédules. Et pourquoi est-ce que vous doutez? Dieu est blessé quand les hommes ne croient pas en lui. Parce que c'est tout ce qu'il vous demande. Tout ce qu'il nous demande. Crois en moi. Attends-toi à moi. Il dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Alors, je vais dire quelques éléments, quelques points. Bon, plus précisément, quatre. Amen. Parce qu'il y a trois éléments qui ne sont pas vraiment des éléments qui font avorter. Mais qui sont les trois premiers éléments sont des choses qu'il faut avoir dans votre cœur. Je veux parler des choses qui peuvent faire avorter la fécondité. C'est-à-dire, là, vous avez levé la main pour dire, Pasteur, j'ai reçu quelque chose dans le moi. Dieu m'a parlé. Je sais ce que je dois produire, ok? Maintenant, ce que vous allez produire là, l'enfant qui est dans votre ventre, amen, des choses peuvent le tuer. Le projet que vous allez vouloir enfanter peut mourir. Je vais citer aujourd'hui les éléments qui font avorter vos projets. Il y a beaucoup de gens qui sont féconds, hein. Ils ont des idées extraordinaires. Mais toujours, le bébé meurt. Qui a connu beaucoup d'avortements? Oh, levez les mains. Vraiment, Yago. Mes condoléances. Que Dieu vous soutienne. Alléluia. Non, moi, mais M. Inga aussi, j'ai pris les avortements. Des bébés, des idées, des choses qui sont dans votre cœur. Alors, vous avez senti quand ça venait, tu dis, là, tu m'as parlé, frère. À peine avez-vous commencé à manifester le projet qui meurt, des situations atroces viennent se jeter contre votre idée, les obstacles, jusqu'à vous baisser les bras, vous êtes découragé. Qui a connu l'avortement? Il y en a qui n'ont pas connu, mon frère. Toi, tu es béni. Non, que Dieu soit avec toi. Là, tu n'as pas levé la main. Voilà, il y en a tous ceux qui font, c'est-à-dire depuis, ils ont tout marche devant eux. En tout cas, nous qui avons vu les projets avortés, là, nous sommes nombreux. Et c'est parce que nous avons vu les projets avortés que nous devons parler de ces choses, afin que tu vois ce que Dieu a mis en toi puisse réussir. Tu n'as pas le droit d'échouer. Alléluia. Alléluia. Et pour pouvoir donner ces quatre points, ils sont partout dans la parole de Dieu. J'ai voulu m'appuyer sur la vie d'un homme qui a eu une vision dans le cœur. Nous allons nous inspirer de lui. Qui a eu une vision dans le cœur, qui a eu un bébé, quelque chose qu'il avait envie d'enfanter. Et devant lui sont laissés des obstacles. Ces obstacles-là, vous les retrouverez avec tous les hommes de Dieu qui ont eu des visions. Amen. Certains se sont arrêtés en chemin, mais lui, il a persévéré jusqu'à la fin. Et il a vu son projet voir le jour. Et de son histoire, amen, on peut tirer les éléments qui viennent faire avorter la vision. Gloire à Dieu. Dis, mon bébé va pas mourir. Il va naître. Il va grandir. Alléluia. Parce qu'il y a des attaques, mais ça ne va pas faire avorter. Hein. Ça, c'est infanticide. Ça dit, ça tue. Hein? C'est une infanticide. C'est-à-dire, l'enfant est né. Parce que l'avorter, c'est quand l'enfant n'est pas né. Et l'enfant est né. Et puis, pendant qu'il est en train de pousser, quelque chose vient le tuer. Alléluia. Nous allons parler de Néhémie. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Néhémie. Je lis Néhémie, nous allons faire assez de lecture et que nous allons commenter. En fait, je voulais conseiller aux bâtisseurs, à tous ceux qui ont des visions, et ceux que vous en avez tous, d'étudier l'histoire de Néhémie en détail. C'est un livre qui vous parle de la détermination. C'est un livre qui vous parle vraiment d'un homme qui avait la volonté, qui montre les ennemis qui sont levés contre lui, les stratégies qu'ils ont utilisées, les paroles qu'ils ont prononcées, et comment cet homme-là est arrivé à braver tous les obstacles et à voir ce que tu avais mis dans son cœur. À voir ce que tu as mis dans son cœur se manifester, voir le jour. Amen. Parole de Néhémie, Néhémie chapitre 1 verset 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui t'observent et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Amen. Néhémie était une chanson du roi. Israël avait été envoyé en captivité. Il fait partie de cette descendance-là de ceux qui ont quitté, comme les Daniel. Et il était auprès du roi. Il était chanson. Il servait la boisson. Mais il avait un fardeau. Amen. Il avait un fardeau. Il aimait Jérusalem. Vous savez, le fardeau est quelque chose, pour parler un peu de la vision, de la chose que vous allez naître, je vais donner encore ce petit élément-là pour permettre d'enfanter vos projets. Le fardeau, ce qui fait souffrir votre cœur, amen, est très souvent le signe de votre destinée. Amen. Vous savez, il y a très souvent quelque chose qui vous dérange. Quelque chose, c'est vrai, qui est une anomalie, mais qui ne dérange pas les autres. comme cela vous dérange vous. Amen. Il est très fort probable que Dieu ait mis en vous la solution à ce problème. Israël avait des problèmes, Jérusalem avait des problèmes, la muraille était détruite. Vous savez, Néhémie n'a pas fait beaucoup de choses. Lui, son travail, c'est de reconstruire la muraille. Amen. La ville même avait des problèmes, mais sa vision était de reconstruire la muraille de Jérusalem. Ils avaient des problèmes. Et il a vu des frères qui venaient d'Israël, il leur a demandé comment c'était. Eux ne pleuraient pas. Lui, quand il a entendu la nouvelle, il a pleuré. C'est vrai qu'ils étaient tristes. C'est vrai qu'ils savaient que c'était désolant. Tu sais, il y a quelque chose. Lorsqu'on en parle, lorsque toi tu regardes la télévision, quand tu vois ces images-là passer, toi tu commences à pleurer les autres. Il dit, c'est dommage. Mais ça ne brûle pas leur cœur. Tu comprends? Il y a des choses, quand vous voyez, ça vous fait souffrir vous, mais ça ne dit rien aux autres. C'est ce qu'on appelle le fardeau. Amen. Quand Néhémie a appris ces choses, Néhémie est rentré dans une grande tristesse. Il est rentré dans une grande tristesse. Et il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Amen. Quand vous avez un fardeau, quand vous avez quelque chose qui brûle votre cœur, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le mépriser. Il faut commencer à prier pour dire, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons régler ce problème? Si vous êtes fatigué de voir les enfants de la rue, si vous êtes fatigué de voir des gens qui arrivent dans les hôpitaux qui n'ont même pas de quoi payer leurs soins, amen. Quand vous arrivez à l'hôpital et vous voyez des gens qui arrivent, vraiment aidez-moi, vous en faites souffrir plus que tout. Moi je vais à l'hôpital, quand je vois ces gens, ça me fait mal. Mais il y en a qui sont dans ce lieu-là et ça les fait plus souffrir que les autres. Je peux marcher dans la ville d'Abidjan, quand je vois un enfant de la rue, ça me fait mal. Mais il y en a une personne qui voit les enfants de la rue, ils sont plus malheureux que les autres. Alléluia. Alors quand vous avez ces choses-là, il faut commencer à prier. Amen. Quand vous voyez par exemple peut-être les bas quartiers, les gens qui sont dans les quartiers dégénérés, quand vous voyez ça vous fait souffrir, c'est que peut-être qu'en vous se trouve la solution. Si vous voyez cela, commencez à prier. Commencez à prier, dites Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Ne laissez pas ce fardeau-là en pleurant pour dire demain il faut que je sois milliardaire. Non. Vous savez, quand vous allez prier par rapport à votre fardeau, vous recevrez une directive. C'est ça être fécond. Quand vous allez travailler dans la directive, c'est là que vous serez béni et c'est là que vous serez distingué. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Si je veux dire simplement, même par rapport à vos projets pour l'année, pour être fécond, c'est quoi? Vous travaillez dans une entreprise. Vous travaillez dans un endroit. Et puis, vous commencez à remarquer dans la boîte qu'il y a quelque chose qui est une anomalie, qui est un problème dans votre structure, qui vous gêne. Amen. Vous travaillez dans une boîte, commencez à prier. Ce qui vous gêne là, c'est là que Dieu veut vous élever pour que vous soyez la tête dans cette boîte et non la queue. Vous comprenez? C'est là votre vision. C'est là votre fardeau. C'est là que va venir votre idée. Vous êtes dans la boîte, vous trouvez que par exemple les gens mettent trop en retard. Vous trouvez que par exemple on n'est pas excellent dans la vente. Vous trouvez des choses comme ça. Vous comprenez, vous avez un fardeau. Quelque chose qui vous fait souffrir. Ne le négligez pas. Ne commencez pas à donner des solutions précipitamment. Commencez à prier d'abord. Cherchez le Seigneur. Dis Seigneur, mène ma boîte. Je travaille dans telle banque là. Mais il y a tel problème. Ne dis pas c'est la banque d'autrui. Qu'est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Quand je ferai ma banque. Non. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. Amen. Dieu, avant de te donner ta vision, va te donner toujours de servir ailleurs. Et là-bas, sans les problèmes, sans ce qui ne va pas. Même si vous voulez travailler dans une entreprise, observez-la de loin. C'est pourquoi Dieu donnait toujours aux gens d'espionner le truc, observer ce qui se passe. Et puis chercher la brèche. Regardez, vous voulez travailler dans une entreprise, regardez l'entreprise de loin. Commencez à l'observer. Regardez comment elle fonctionne. Entrez, parlez avec les gens qui sont là-dedans. Ne vous précipitez pas pour aller déposer votre CV. Regardez, allez parler avec les gens. Tu travailles ici, comment vous travaillez? Et puis, allez souvent visiter l'entreprise. Parlez avec les gens. Même si vous pouvez même avoir un stage, même sans être rémunéré, faites-le quand même. Mais juste observez. Et quand vous allez trouver le problème, mettez-vous à prier. Quand Dieu va vous donner d'écrire votre CV, vous allez écrire un CV très différent. Vous allez écrire un CV en apportant la solution à leur problème. Vous comprenez? Vous allez écrire en disant, je peux vous aider à tel niveau. Vous vous vendez. Vous savez, on va vous prendre, pas parce qu'on a pitié, mais parce que vous êtes une solution. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? On vous prend parce que vous êtes une solution. Pas parce que vous êtes quelqu'un comme tous les autres qui est sur le carreau. On n'a pas pitié dans le monde. Je vous ai toujours dit ça. On n'a pas pitié. Le monde ne connaît pas la pitié. Ne faites pas par exemple des CV qui font pitié. Genre à la fin, embauchez-moi. Le pays est dur. La société est compliquée. Donc c'est par compassion que le ministère va vous prendre. De la même manière, vous appelez par compassion, on va vous renvoyer aussi comme ça. Soyez une solution à un problème. Prenez tout, vous regardez toujours, quand Dieu voulait prendre un territoire, Dieu fait toujours observer. Ils arrivent à Jéricho. Dieu dit à Josué d'envoyer des espions pour aller voir la ville. Il faut toujours prendre le temps d'observer. Est-ce que Dieu avait besoin pour tracer les Goliath, pour tracer les géants qui étaient à Canaan, d'amener les 12 espions? Juste pour que les gens observent. C'est très important d'observer. Prenez le temps d'observer. Ce vous, dans quoi vous voulez rentrer, prenez le temps d'observer. Ne vous précipitez pas. Et bien, Dieu m'a envoyé dans cette entreprise. Dieu m'a dit que c'est là que je vais travailler. Si vous n'observez pas d'abord la boîte que vous précipitez, on va vous renvoyer, on va vous prendre. C'est pas comme ça fonctionne, frère. Si Dieu t'envoie dans un endroit, c'est que tu as une solution à un problème. Dieu ne va pas t'envoyer juste pour que tu aies à manger à la maison. Je vous ai dit, une vision qui est enfantée à cause du ventre ne réussit pas. Ok. Si vous voulez travailler dans un endroit parce que vous avez faim, c'est pas évident que Dieu vous bénisse. Vous devez travailler dans un endroit parce que vous avez une solution. Quand vous allez commencer à résoudre la solution, Dieu va régler votre problème de faim. On ne vit pas pour manger. Amen. On vit pour apporter des solutions, pour être la vie. Et parce qu'on produit, on mange. Amen. Si tu vis pour ton ventre, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Alléluia. Si tu cherches un boulot juste pour sortir de la faim, tu vas rater ta destinée. Le ventre ne doit pas conduire ta vision. Mais ce que Dieu a mis en toi, tes capacités, les compétences qu'il a déposées en toi. Alléluia. Alléluia. Donc vous regardez la boîte, vous observez. Vous dites, j'ai prié, Dieu m'a dit que j'allais travailler ici. Vous priez, vous priez, vous observez, vous posez les questions aux gens. Quand vous écrivez votre CV, vous donnez une solution. Vous ne dites pas tout, il ne faut pas tout dire. Deux, trois petits mots. Écrivez votre CV avec beaucoup de joie. J'arrive dans votre boîte, mettez-moi au défi. Je donne 3 mois pour changer la situation. Tac, 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 tac. Maintenant, avant, ça me prenait le temps de prier pour que Dieu vous les porte. Parce qu'il y en a qui vont voir, ils seront jaloux de vous. Amen. On parlera de tout à l'heure. Ce sont les avorteurs de vision. Alléluia. Ah, je vais vous montrer comment on prie. Il y a ce qu'on appelle les méchants. Les méchants, il faut les éloigner. Parce que les méchants font rater les projets. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis si tu fais comme ça? Ok. C'est ça qu'on appelle le fardeau. Quelque chose qui vous fait souffrir. Quelque chose que vous voyez qui ne va pas. Quand vous avez le fardeau, vous commencez à prier. 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 Néhémie a commencé à prier. Néhémie a commencé à prier. Néhémie a commencé à prier. Et vous lisez la prière. Il a prié. Et il a prié en rappelant à Dieu ses promesses. Il a prié en rappelant à Dieu ses choses. Amen. Alléluia. Ce que je veux t'expliquer, même pour une petite boîte qui pourtant n'est pas ta destinée, si toi tu ne vas pas apporter la solution à cette structure, peut-être que la boîte va fermer. Il y aura beaucoup de gens qui seront renvoyés. Parce que toi, tu n'es pas venu avec ton don. Amen. Alléluia. Ne te dis jamais que l'endroit où Dieu va vous envoyer, parce que ce n'est pas votre entreprise. Vous n'avez rien à y faire. Vous partez juste pour vos intérêts personnels. Non. Soyez toujours des gens qui donnent, qui apportent quelque chose. Mais vous savez très bien que parce que ce n'est pas votre boîte, ce n'est juste qu'un tremplin pour vous. Mais Dieu va vous former. Vous allez être équipé pour être prêt pour votre vision. Retenez toujours ceci. Si tu n'es pas fidèle à ce qui appartient à une autre personne, Dieu ne te donnera jamais ce qui est à toi, dit la parole du Seigneur. Amen. Vous devez toujours travailler quelque part avant que Dieu vous donne de travailler dans votre propre vision. Amen. Gloire à Jésus. Alors donc Néhémie a prié et Dieu va lui ouvrir une porte. Un jour il arrive devant le roi, mais Néhémie n'a rien demandé au roi. Mais voilà comment il a prié. Il a dit, Seigneur, ah Seigneur, verset 11, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Au chapitre 2, Néhémie va aller, sera triste, mais va rien demander au roi. Et le roi va lui demander, mais je t'ai jamais vu triste. Néhémie va dire, si je suis triste, c'est parce que ma ville, la mienne est détruite, elle est dans une désolation. Le roi va dire, que puis-je faire? Alléluia. Alléluia. Le roi va dire, que puis-je faire? Le roi va lui donner tout ce qu'il faut, des lettres, pour aller les apporter aux gens. Lisons Néhémie chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Atasécès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Amen. Lorsque le roi a demandé à... Il dit, qu'est-ce que tu veux que je... Quel est ton problème? Il a fait une prière rapide. Il dit, j'ai prié dans mon cœur avant de cet esprit. C'est toi qui es en train de m'ouvrir une porte ici. Amen. Donne-moi les mots qu'il faut. Et là, il va parler. Vous savez, Dieu va vous faire rencontrer des gens. C'est évident que lorsque vous allez sortir de votre destinée, il y a une rencontre favorable que Dieu vous allez faire. Vous savez, ce n'est pas Néhémie qui a demandé, mais il a dit, fais-moi trouver grâce auprès de cet homme. Quelle est cette prière? Quand vous avez le fardeau, quand vous avez la vision, il y a quelqu'un sur qui vous devez tomber. Il y a une rencontre favorable. Alléluia. Il faut prier pour l'obtenir. Néhémie a prié, dit, Seigneur, fais-moi trouver grâce auprès de cet homme. Mais il n'a pas dit c'est quel homme. Peut-être c'était le roi, peut-être c'était le chef, le premier ministre, on ne sait pas. Fais-moi trouver grâce auprès de cet homme. Il a prié l'Éternel. Ouvre-moi les portes. Et puis Dieu va amener la personne sur son chemin, à la personne du roi, qui va regarder son visage triste et qui va lui apporter la solution. Néhémie, sachant que c'était la voix de Dieu, va lui donner la réponse qu'il fallait. Et qu'est-ce que le roi va faire? Il va lui donner une lettre. Il dit, puis je dis au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna des lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Retenez bien, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur. Il dit, il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis la nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puis passer la bête qui était sous moi. Je montai la nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fis ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Amen. Alléluia. Donc, quand Néhémie va obtenir la faveur, voilà l'attitude qu'il va adopter pour que Dieu manifeste sa grâce. La première des choses, Néhémie va garder le silence. La première chose qui va faire avorter votre projet, après la vision, tout ce que je viens d'expliquer, c'est le fait de trop parler. Alléluia. Quand Dieu vous donne une vision, il ne faut pas parler. N'allez pas bavarder dans la ville. N'allez pas expliquer, n'allez pas dire à ton voisin, il ne faut pas parler. Quand vous parlez, je vais lire des versets dans la parole de Dieu qui le démontre. Quand vous parlez, vous expliquez à un frère, vous-même, vous allez tuer votre bébé. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'on ne doit pas parler. Il y a un temps pour parler. Dis à ton voisin, il y a un temps pour parler. Parler trop vite est la première source de mort des projets. Parler trop vite est la première source d'avortement. Tu as reçu la vision. Arrête d'aller dire, frère, oh, Dieu m'a parlé hier. Un puissant ministère. Évangéliste international. Tu vois, les frères qui parlent comme ça, pour atteindre cet objectif-là, ils se font durer. Mais c'est comme si la vie entière, à un moment donné, même, ils vont douter. Est-ce qu'ils sont appelés à être évangélistes un jour? Et que leur songe, là, leur vision, est-ce que ce n'était pas un cauchemar, une pensée de leur... Regardez, vous savez, c'est ce qui a créé des problèmes à Joseph. Joseph a reçu la vision, les parties disent là, c'est vrai. Il a vu l'accomplissement de la vision de longues années après, à cause de sa persévérance. Au point où elle est arrivée chez Potiphar, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il pouvait croire encore à la vision de Dieu. Dieu lui a montré que lui, Joseph, allait être établi sur ses frères. Joseph se lève et va parler. Il dit, j'ai fait un songe. Dans le songe. Enfin, tu as eu la vision. Il faut l'avaler d'abord. Dis Amen. Amen. Tu as eu la vision. Il ne faut pas te précipiter, mon frère. Car où tu parleras, quand tu vas parler, chaque fois que tu parles, trop vite, Tu mets des années pour voir ton rêve se réaliser. Surtout, il y a des gens qui ne vont pas parler, les méchants. Alléluia. Vous savez, les méchants se débrouillent quand même pour savoir. Vous savez, la Bible dit que quand il est arrivé, Sambala, l'Horonite, Tobija, ils ont appris. En fait, parce que dès qu'il a montré le courrier au gouverneur, le gouverneur, c'est pas pourquoi il est parti dire à Tobija. Mais en tout cas, il se trouve que ces gens l'ont su. Et c'est là que les problèmes de l'ennemi vont commencer. Amen. Mais quand même, l'ennemi n'a pas trop parlé. Alléluia. La Bible dit dans le livre du psaume, dans le livre du psaume chapitre 39, il dit, je disais, je verrai sur ma voie, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Vous comprenez? Il dit, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je mettrai, il faut savoir freiner, mettre un frein à ta bouche. Maintenant, tout à l'heure, je vais t'expliquer comment on sait qui est méchant. Mais c'est pas tous ceux qui rient avec toi. Alléluia. Le méchant, c'est pas qu'il va faire des calculs. Quand le méchant prend un projet qui n'est pas né, même s'il ne vient pas physiquement, tu sais, il y a les méchants, on connaît les sorciers. Mais il y a des gens qui ne te souhaitent pas du bonheur. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens qui sont jaloux. Vous savez, vous arrivez à les distinguer. En fait, bon, brièvement, les signes pour connaître les méchants. Quelqu'un qui critique les autres. Devant vous qui vient s'asseoir et qui parle. Qui dit, tu connais telle personne qui me dit, celui-là. Même si aujourd'hui c'est ton ami, ne lui dis jamais un projet. Je n'ai pas dit, il te critique toi. Il te donne l'impression d'être ton ami. Mais quand vous vous asseyez pour parler, peut-être qu'il n'a pas l'intention de te dire ton projet. Il dit, moi-même, je vais t'aider, je connais. Et même si cet homme-là a 10 000 relations, mais quand il s'assoit, quand il vous parle, il te parle de quelqu'un. Tu connais le gars, là? Il fait ça. Tu sais qu'il fait. Et puis tu vois, il médite des autres, mais pas de toi. Donc, tu crois que c'est ton ami. Celui-là ne lui dit jamais ton projet. La Bible l'appelle un méchant. Alléluia. C'est pas forcément qu'il va aller détruire ton projet. Mais il n'est pas une semence, un endroit, une bonne terre où ta graine peut pousser. Son cœur n'est pas droit devant Dieu. Son cœur n'est pas pur. L'idée se met en lui, ça donne des mauvaises herbes. Ça crée des problèmes à ta vision. Même si cet homme-là est pour toi une source de contact pour aller rencontrer d'autres personnes. Parce qu'il connaît tel ministre. Mais c'est quelqu'un qui médit. C'est quelqu'un, tu vois, qui a la langue facile. Même s'il connaît des gens, c'est pas lui qui portera ta vision. Dieu ne va pas composer avec lui. Fais attention. Fais attention. Si tu as compris, fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Ah, on va lire des passages qui décrivent les méchants. Ne vous inquiétez pas. Proverbe 18, verset 7. Il dit, donc retenez, Proverbe 39, verset 1. Je mettrai un frein à ma bouche. Psaume 39, verset 1. Tant que le méchant sera devant moi. Tu es en train de parler, tu es en train de discuter avec quelqu'un. Si ton idée va sortir, tu es en train de parler à ton mari. Quelqu'un arrive. Ce n'est pas ton ennemi, hein. Mais il vient. Hey! Il vient dans la maison comme ça. Freine. On dit de mettre un frein à ta bouche. Tu freines. Tu dis, chérie, parler d'autre chose. Tu es la politique en Côte d'Ivoire. Amen. Parce que même s'il arrive et puis il dit, mais c'est ce que tu veux faire. Je peux t'aider. Le gars là, je le connais. Je le connais. C'est mon ami, c'est mon frère même. Tu vois, distingue qui est méchant. Ce n'est pas sa relation qui importe. Sache une chose, ta faveur vient de Dieu, pas d'un homme. Ne tape pas sur un homme. Quel que soit ce que les gens disent qu'ils savent, tout méchant qui prendra ton projet, même s'il a le temps, il dit dans sa bouche, il va t'aider. Ce qui produit ne peut que t'arrêter. Le méchant, si tu vas le rencontrer pour dire, je veux une promotion, lui, quand il va aller parler à celui qui fait la promotion, les gens vont te rétrograder. Le méchant va te faire échouer toujours. Tu rencontres le méchant. Tu dis, je sais que tu connais. Tu lui as donné ton CV, le CV que tu lui as donné là. Le fait que c'est lui qui donne, ça n'a pas marché. Alléluia. Alléluia. Dis amen, amen. Fais attention donc de ne pas trop vite parler. La Bible dit, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Proverbe 18, verset 7. La bouche de l'insensé cause sa ruine. C'est ce qui sort de ta bouche qui va ruiner tes projets. Alléluia. Proverbe 10, 19. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Alléluia. Il ne faut pas trop vite parler. Tout à l'heure, je te donne encore des éléments sur les méchants et sur les amis. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut prendre le temps d'observer. Prendre le temps d'analyser avant même de sortir ce qui Dieu a mis dans votre cœur. La Bible dit quoi? Néhémie était contraint. Quand il a donné ça au gouverneur, il y a des méchants qui ont suivi. Mais après ça, lorsqu'il est arrivé, même les gens avec lesquels il allait travailler, il ne leur a pas dit. Il est sorti la nuit. Il dit, je ne parlais à personne. Lui-même, il a pris son cheval et puis il a commencé à sillonner la ville. Il a regardé ce qu'il y avait à faire. Il a considéré la tâche. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il a fini ceci, il a su à qui il fallait parler. Parce que bien sûr, à un moment donné, il faut commencer à faire l'assurance. Amen. Il faut commencer. Il y a des gens que le Seigneur va mener vers vous. Et tout ça, je vais dire aussi comment reconnaître ces personnes-là. Verset 17, il dit, je leur dis, alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifient dans ces bonnes résolutions. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite et Geshem l'Arabe en ayant été informés se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit, que faites-vous là? Vous revoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'aurez ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Lorsque le temps est venu de parler, je dis tout à l'heure, je vais expliquer quels sont les méchants et les bons. C'est à qui il faut parler. Lorsque vous avez fini d'analyser, toujours dans l'esprit de la prière, vous allez sentir les premières personnes, les gens à qui vous devez parler de la vision. Laissez Dieu vous conduire. Dès que l'idée vient, n'en parlez pas. Alléluia. Et à un moment donné, pendant que le fardeau sera dans votre cœur, pendant que vous le mettez en prière, vous allez sentir que le temps arrivé, il y a des gens à qui vous devez parler de ce qui est dans votre cœur. C'est dans ce moment-là que vous devez aller vers eux. Et là maintenant, Néhémie va partir vers les personnes qui sont concernées. Il va leur donner la parole. Et il va savoir les motiver. Amen. Ah, je dis comme deuxième élément, qu'il y a une petite chose, mais qui est quand même très important. Quand Dieu vous a montré les personnes, il faut savoir les motiver. Il faut savoir encourager les gens qui vont travailler avec vous. Amen. La Bible dit que lorsque Néhémie leur a parlé, ces gens-là arrivaient dans la ville. Ils voyaient les problèmes, mais ils ne se sont jamais levés pour essayer de le bâtir. Alléluia. Ne croyez pas que, initialement, les gens vont porter votre vision. Souvent, la vision meurt parce que les gens aussi ne savent pas parler avec ceux qui doivent travailler avec eux. Ils ne savent pas les encourager. Alléluia. Ça veut dire que très souvent, les gens ne comprennent pas pourquoi les autres ne souffrent pas comme eux pour une chose qui est importante. Vous savez, quand vous êtes choisi pour une vision, vous risquez d'être le seul à souffrir pour votre fardeau. Vous comprenez? Parce que les autres, c'est pas leur fardeau. Les autres, c'était le fardeau de vous aider et d'accomplir eux-mêmes leur propre destinée. Amen. Vous pouvez avoir une vision, par exemple, de faire un ministère et puis vous voulez évangéliser les musulmans. Vous parlez, amen, ta vision est grande, mon frère, Dieu te bénisse. Et puis bon, hein, au revoir, hein, vas-y. Et moi-même, j'irai avec toi. Mais à la date, il dit, ah, tu m'excuses, hein, il y a mon frère qui est, tu vois. Les gens ne. Il ne faut pas que cela vous offusque. Quand Dieu vous a montré les personnes à qui il faut parler, ce que je dirais tout à l'heure, vos amis, il faut savoir les motiver par vos paroles. La Bible dit que lorsque le temps est arrivé pour Néhémie de parler, il les a motivés. Parce qu'une vision meurt. Parce que les gens ne savent pas aussi choisir leurs collaborateurs. Les gens ne savent pas parler à leurs collègues. Il y a des frères qui ont des projets. Il y a des gens avec lesquels ils ont travaillé. Mais là, leur relation avec les gens, avec les personnes avec lesquelles ils vont travailler, n'est pas motivante. Et leur projet, ça veut dire qu'ils ne réussissent pas. Vous ne pourrez pas réussir seul. Alléluia. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Et il y a des gens à qui il faut parler. Amen. Mais quand vous avez trouvé les gens à qui il faut parler, il faut savoir une chose. C'est qu'il y a des gens qui vont vous aider à aller vers votre destinée. Ils ne porteront pas le fardeau comme vous. Ils ne vont pas souffrir avec vous. C'est vous qui risquez de souffrir seul pour l'œuvre. Même si la résolution de, votre, de leur problème, de ce problème-là, est aussi pour eux une très bonne chose. Ces magistrats-là étaient longtemps dans la ville. Ils étaient là, ils ont vu les murailles tomber, ils ne sont jamais levés. Il a fallu que Néhémie vienne. Et c'est Néhémie qui les a encouragés. Néhémie a eu des paroles pour eux. Alléluia. Tenez compte toujours des gens que Dieu vous a donnés. Tenez compte toujours des gens que Dieu met avec vous. Votre vision ne va pas réussir si vous méprisez les personnes avec lesquelles vous travaillez. Dieu vous envoie des collaborateurs. Vous avez des employés dans votre société. Et vous avez du mépris pour eux. Vous ne les parlez pas. Quand vous les parlez, oh, je te paye et puis quoi là? Amen. Ces gens-là deviendront un ennemi, des ennemis dans votre propre boîte, votre propre tête. Respectez les gens. Peut-être qu'il y aura des méchants là-dedans. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on évacue les méchants. Alléluia. Parce que vous ne connaissez pas leur cœur. Mais vous, soyez irréprochables à ce niveau-là. La Bible dit que lorsque Néhémie leur a parlé, eux tous sont les ont dit, levons-nous et bâtissons. C'est pas Néhémie, lève-toi. La Bible dit, Néhémie a su leur parler. Néhémie a su les motiver. Trop de gens, vous savez, ils ont une vision et puis ils évoluent. Ils t'expliquent la vision de manière brutale. On va là, tu veux pas. Allez, quitte là, quitte à côté de moi. Toi, si tu allez, quitte là. Amen. Oh, ces gens-là doivent aller avec la personne. Vous comprenez? Parce qu'il ne sait pas traiter les hommes. Il ne sait pas traiter les gens avec qui doivent marcher. Tu sais, tu as des problèmes parce que tu ne sais pas entretenir tes amis. Tu as des problèmes parce que tu ne sais pas trier, parce que tu ne sais pas parler avec les gens qui t'ouvriront les portes. Tu travailles avec des employés. Même quand tu leur donnes, tu leur fais même des dons. Et puis quand tu penses que même quand tu leur fais des dons, quelquefois ça va être du mépris. Et puis tu leur rappelles chaque fois, celui-là, c'est moi-même, je l'ai aidé. Si ce n'était pas là, tu vois. Le cœur avec lequel tu aides les gens avec lesquels tu travailles, ne va pas, les gens, ces gens-là même vont pas t'ouvrir la bénédiction dans leur cœur. Et ils vont se transformer en méchants. Si Néhémie n'avait pas considéré les magistrats, il n'aurait jamais construit sa muraille. Parce que, est-ce que lui, il allait prendre les briques? Alléluia. Frère, sachez gérer les gens que Dieu vous donne. Il y a toujours des personnes que Dieu mettra sur votre chemin pour vous dessiner. Ne dis pas, mon frère, tu es là. Tu n'es pas là, je m'en fous. De toute façon, tu manges l'argent, je peux payer d'autres personnes. Je vais te renvoyer. Tu vas renvoyer les gens, ton argent va finir. Hein, d'en payer le droit des gens. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts dans leur ministère comme ça. Dieu envoie des gens, mais ils ne savent, savent pas travailler avec les personnes avec lesquelles que Dieu a envoyé, avec lesquelles doit travailler. Alléluia. Ils ne savent pas travailler avec ces personnes. Et leur vision meurt. Leur vision meurt. Sachez travailler avec vos collaborateurs. Sachez respecter les gens que Dieu a mis autour de vous. Sachez leur parler. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle une œuvre meurt. Un bébé meurt. Vous avez un avortement. Première raison, parler trop vite. Deuxième raison, ne pas savoir parler à ceux que Dieu a mis autour de vous. Ne pas savoir les considérer va tuer la vision. Troisième chose, qui peut tuer votre vision? Ah, mais c'est maintenant que j'ai parlé des méchants. Vous savez, c'est se laisser influencer ou intimider par le méchant. Se laisser influencer, se laisser intimider par les méchants. Vous savez, c'est là où leur intervention vient saper votre foi. Si vous lisez tous les passages de Néhémie, quand ils parlent des Sambala, les Horonites, tout ce groupe-là, ils avaient constamment des paroles très néfastes, très négatives et très méchantes. Et le temps de m'encourager de lire tous les passages de Néhémie, je vous conseille de lire Néhémie chapitre 6. Alors là-bas, la bataille devient plus grande. Je lis Néhémie chapitre 6, verset 17. Il dit. Bon, permettez, je vais lire quand même Néhémie chapitre 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus Il ne restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de No. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à l'exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message 1/5 fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il était écrit, le bruit se répand parmi les nations que Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambalat, ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Pour ces gens, tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Mehetabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et formons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia la prophétesse et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, et elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'ils étaient gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jokana avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et lui rapportait mes paroles. Tobija envoya des lettres pour m'effrayer. Alléluia. Les méchants hommes se sont levés contre la vie de Néhémie. Et je vous assure, si vous avez une vision, les gens se lèveront contre vous. Alléluia. Comme un ami le dit souvent, si tu marches sur un chemin et tu ne rencontres pas le diable face à face, sûrement que le diable et toi, vous partez dans le même sens. Alléluia. Ben, si le diable est derrière toi, que vous avancez dans le même sens, est-ce que vous pouvez vous rencontrer? Mais si le diable a pris le chemin contre, si tu as pris le chemin de Dieu, c'est que le diable doit venir contre toi. Donc tu dois rencontrer Satan. Si tu n'as pas rencontré Satan, faut freiner. Elle sera la bonne route. Tu dis, ouais, le diable, tu prends la jumelle, tu regardes devant. S'il n'est pas devant, tu dis sûrement la voix de Dieu ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Savoir reconnaître le méchant et ne pas se laisser influencer et intimider par ce que les gens disent. Quand vous avez une vision, vous devez déterminer. Quand Dieu vous a mis un but, vous devez déterminer. Regardez le passage. Même des faux prophètes sont venus prophétiser. Vous savez, beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils sont trop faibles émotionnellement. Ils se laissent intimider par les rumeurs, par ce que les gens disent. Alléluia. Et moi, j'ai vu beaucoup des projets que Dieu m'a donnés mourir à cause, parce que je voulais une bonne réputation. Vous savez, il dit, il parle dans la ville, on dit que tu fais ça pour telle chose. Et puis, il a dit, bon, moi, j'allais montrer que je ne fais pas ça pour tant. C'est ce qu'il raconte de moi, non? Je vais agir. Je vous ai expliqué, je dis, que le fruit de votre vie ne soit jamais produit par rébellion. N'est-ce pas parce que les gens parlent, mais c'est parce que Dieu vous a dit. Toute attitude que vous avez parce que les gens ont empoisonné votre esprit va produire une œuvre de la chair. Alléluia. Vous avez une vision. Vous savez, il faut être ferme. C'est pourquoi j'aime l'histoire de la femme syrophénicienne. Parce que même les apôtres s'étaient opposés à ce qu'elle avait reçu de Dieu. Elle ne s'est pas laissée intimider. Elle allait vers sa vision. Il faut aller vers votre vision. Vous, votre vision va s'avorter si vous êtes trop influençable, trop intimidable. Parce que vous allez avoir de l'oppression. Parce que même des gens qui mangent à votre table, comme le cas de Néhémie, risquent de s'opposer à vous. Risquent de vous donner des propos pour vous décourager. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les conseils. Parce qu'il y en a qui voient ici sont entêtés. Et là, on leur donne des conseils. Et les gens ne vont pas comprendre. C'est pas qu'il ne faut pas écouter les conseils. Mais il faut arriver à faire la discussion. Les conseils viennent de qui? Amen. Et Néhémie était arrivé à distinguer qui étaient les méchants. Même parmi les prophètes. Il dit, toi là, c'est le diable qui t'anime. Parce que Néhémie était en danger. Et il vient l'effrayer. Il dit, allons, rentrons dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, viens, on va prier. Et quand il prie, il dit, et s'il parle, mon Dieu, les gens veulent venir te tuer. Néhémie savait que les gens voulaient le tuer déjà. Mais il dit, cette nuit, ils vont venir te tuer. Viens, va, viens, cache-toi là, et tu vivras. Alléluia. Ah, j'ai vu trop d'enfants de Dieu mourir à cause de fausses prophéties. On sème une peur dans leur cœur là. Va ici. J'ai dit, le message de Dieu n'est pas un message qui produit la peur. Quelque chose qui vient pour vous effrayer. La peur est une âme du diable. Alléluia. La peur est une arme du diable. Amen. Il faut veiller sur vous. La peur est une âme du diable. La peur, Jésus a dit à Pierre, viens marcher sur l'eau. Pierre a eu peur, il s'est mis à couler. Toute prophétie, quand une prophétie, quelque chose vient produire en vous la peur, ça vous effraie, vous n'allez pas dormir. C'est quelque chose qui t'angoisse. Amen. On peut vous mettre en garde. Vous vous effrayez comme ça. Parce que la peur tue la vision. La peur tue le projet. La peur fait avorter votre projet. Les prophètes ont voulu créer en Néhémie la peur. Ne pas vous laisser intimider par les méchants. Je lis quelques versets. Psaume 101, verset 4. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Si vous avez autour de vous des gens qui sont orgueilleux, vous savez, le méchant, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est contre vous. Mais c'est quelqu'un qui est hautain, qui a le regard hautain, qui est orgueilleux. Ce n'est pas celui-là, il faut partager vos projets. Amen. Même si aujourd'hui, il paraît devant vous un ami, en réalité, vous savez, parce que vous avez un autre esprit, vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas le même esprit, ce n'est pas votre ami. Même si vous avez votre ami d'enfance, ce n'est pas une telle personne avec laquelle, n'est-ce pas, quelqu'un qui a le regard hautain, quelqu'un qui médit, quelqu'un, vous savez, qui est hautain, orgueilleux, qui méprise les gens. Ne bâtissez pas dans la vie d'une telle vie. Ne se mettez pas avec une telle personne. Amen. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera avec moi. Alléluia. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne suscitera pas ma présence. Psaume 101, verset 4 à 7. Proverbe 25, 5. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Psaume 37, verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste et il graisse des dents contre lui. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Alléluia. Fuyez les méchants, fuyez les moqueurs. Comment il faut prier? Quand vous priez, dites Seigneur, éloigne de moi le méchant. N'essayez pas de distinguer les gens. Ce que vous pouvez distinguer, mais dites Seigneur, éloigne de moi le méchant. Si le méchant s'éloigne de toi, tes projets porteront du fruit. Alléluia. Voici les amis. Il y a quatre types d'amis qui vous sont utiles pour atteindre votre destinée. Quatre types d'amis. Je vais les citer rapidement. Voilà les quatre types de personnes qui peuvent vous aider, qui vont vous aider. Ce sont les personnes qui remettent en cause votre condition actuelle et qui refusent le statu quo. Ces personnes vous challenge, vous poussent à prendre des risques et à sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire, les gens qui vous motivent dans la vie, ce sont vos amis. Amen. Ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas vers toi et puis parler. Tu vois quelqu'un qui arrive, lui, pas, la vie est toute noire, négative, tout ne va pas là. Les gens la laissent là. Mais quelqu'un qui vient, qui dit, mon ami, tu es meilleur, tu vas réussir. Quelqu'un qui dégage en toi la confiance. Quelqu'un, lorsqu'il t'approche de lui, tu vois, il te donne envie d'aller de l'avant. Ça, c'est un ami. Voilà des gens qu'il faut fréquenter. Mais les gens qui vont te dire, frère, la vie est dure. Il va pas devenir ton ennemi, mais c'est pas une personne avec laquelle il faut investir. Il va faire échouer ton projet. Dis mon frère, on peut rien réussir dans ce monde-là. Quand tu vois tout est négatif, il critique les gens. Alléluia. Les amis souvent sont pas très nombreux. Mais des gens qui sont là qui disent, mais non frère, tu vas sortir de la pauvreté, sors de ton état, va de l'avant, quelqu'un qui t'encourage, quelqu'un qui te challenge, ça c'est un ami. Amen. Et puis quelqu'un qui est un ami, c'est quelqu'un qui a la crainte de la parole de Dieu. Il a peur de la parole de Dieu et non de vous. Ça veut dire la personne peut te dire la vérité selon Dieu. Mais il n'a pas honte de toi. C'est un ami. Si tu en peux, il va te dire, frère, la Bible dit que ce que tu fais n'est pas bon. Lui là, c'est un vrai gars, reste avec lui. Alléluia. Ce sont des gens qui vont te pousser vers ta destinée. Mais quelqu'un, tu pêches, il ne peut pas te dire la vérité en face. Il ne peut pas te descendre avec toi pour te dire, c'est pas bon ce que tu fais. C'est pas un ami. Il marche avec toi, il sait que ce que tu fais est mauvais. Et puis il sourit. Tu sais, la vie, mon frère, tout va bien. C'est un dangereux. Quelqu'un qui te voit entrer dans le péché et qui sait que tu n'as pas une bonne attitude, qui n'a pas le courage de te le dire, mais un homme qui peut s'arrêter devant toi. Tu parles et puis il dit, je ne suis pas d'accord. Voilà ce que je pense. Voilà ce que dit la Bible. Tu insistes, il dit c'est vrai, on est amis, hein, mais là, là, voilà la parole de Dieu. Celui-là, reste avec lui, c'est ton ami parce qu'il t'aime. Alléluia. Ce sont des gens qui te propulsent vers ta destinée. Amen. Quelqu'un qui t'encense, qui dit, oh, tu sais que tu es trop bien. Même quand tu fais des fautes, lui, on l'appelle un méchant. Tu as l'impression qu'il t'encourage. Non, il ne te dit pas la vérité. Alléluia. Le gentil, ton ami, c'est quelqu'un qui peut te motiver, qui peut t'encourager. Amen. Qui te dit d'aller de l'avant. Mais qui te dit aussi la vérité. C'est quelqu'un qui a lui-même c'est vrai, une relation avec Dieu. Que sa relation avec Dieu est plus précieuse que sa relation avec toi. Son intimité avec Dieu est plus importante que son amitié avec toi. C'est un ami pour toi. Parce qu'il a Dieu comme référence. Si tu vas marcher avec lui, tu iras vers ta destinée. C'est quelqu'un qui peut être ton ami, c'est quelqu'un qui peut te défendre quand tu n'es pas là. Amen. Une personne devant qui on peut te critiquer sans qu'il te défende. N'est pas ton ami. Est-ce que vous comprenez? Ça dit quelqu'un, il va voir ta camarade. Et puis on le critique là. Et puis le papa, il dit, eh, c'est ce que tu penses de telle soeur. Il parle pas et puis il est là. Après, il dit, tu sais ce que la fille a dit de toi? C'est pas ce qu'elle a dit. Demande-lui, toi, tu as dit quoi? Il dit, tu sais ce qu'elle dit de toi? Elle dit que toi, tu es méchant comme ça. Oh, oh, oh. Je dis, mais toi, tu as dit quoi? Amen. Si elle dit non, je me suis calmé pour écouter tout ce qu'elle avait à dire. Fais attention. La personne. Parce que sûrement que elle était dedans. Ah bon? Elle a acquiescé. Maintenant, elle vient te dire. Lui-même, qu'elle a, c'est un méchant. C'est pas une personne à laquelle il faut bâtir. Dis Seigneur, éloigne de moi le méchant. Alléluia. C'est eux qui font avorter les projets. Amen. Les gens qui vous obligent, qui vous motivent à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Et le dernier élément qui peut faire avorter votre projet, c'est vous-même. Avec le manque de détermination. Le manque de volonté d'aller jusqu'au bout. J'inclus là-dedans la paresse. Oui, il y en a qui sont pas. La paresse la paresse se tue les projets. La Bible dit, Proverbe 12, verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Quand vous lisez le livre de Néhémie, vous allez voir que Néhémie était quelqu'un de très travailleur, de très diligent. Lorsqu'il a pris le projet, il est venu pousseur. Ne soyez pas paresseux. Proverbe 19, verset 24, le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Et le miracle m'a commencé, il a dit. Et il met la main dans le plat. Tu étais au bord de la bénédiction, mais tu as refusé d'aller jusqu'au bout à cause de ta paresse. Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans la rue. Proverbe 26, verset 14. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Les paresseux sont les gens qui aiment trop dormir. Ça tue les visions. Vous ne verrez jamais vos projets se réaliser si vous aimez dormir. Si vous aimez dormir, vous dormez jusqu'à 10 heures. Frère, ça tue une vision. Dormir jusqu'à 10 heures. Le soleil se lève à 6 heures. Si tu aimes dormir jusqu'à 10 heures, ta vision va mourir. Faut bien retenir. Fais-toi violence. Prends un réveil qui va te réveiller le matin. Mais la journée commence à 6h. 4h du matin, tu te lèves pour prier. 6h, tu commences à jouer. Et puis tu es actif et diligent. La paresse va te détruire. Tu vous avez un peu beau prier. Il dit le paresseux met la main dans le plat, la main pas jusqu'à sa bouche. Amen. Dieu même va t'amener, ta bénédiction sera là. Mais tu n'auras pas la force d'aller la prendre. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je ne vais pas sortir, il va me tuer. Les paresseux ont toujours des prétextes pour ne pas travailler. Il dit, le père est devenu, tu te lèves tôt, il n'y a rien. Tu te lèves, frère. La paresse tue beaucoup de gens. J'ai vu beaucoup de frères qui avaient des rêves. Ils avaient de grands projets. Mais c'était paresseux. Ils attendent sur leur lit, en mangeant et en dormant, que tout vienne les trouver dans la chambre. Il va tomber comme ça. Subitement, on va t'appeler au téléphone. Oui. Vous savez, quelquefois, pour faire travailler les gens, Dieu leur fait permettre qu'ils déposent beaucoup de CV juste pour voir la sueur. Il dit, Abraham. Il dit, Seigneur, montre-moi la boîte où je vais les déposer dans mon boucher. Dieu ne te répond pas. Et tu te retrouves en train de déposer. Il dit, mais j'attends la révélation divine. Tu veux que tu travailles. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Il ne faut pas trop faire la sieste. Sieste de 10 minutes, mais les siestes profondes. Sans destinée, sans avis. Tu dors jusqu'à. Frère, c'est pas normal ça. Et tu dors. Regarde, 17h, 18h, tu te réveilles. Mais la vie est finie, mon frère. Ta vision va mourir. Faut jamais justifier la paresse. Tu es là, on peut pas te réveiller. C'est pas bon. C'est pas bon. Tout le monde aime dormir, frère. Mais à 7h, 4h du matin, tu dois être debout. Tu dois préparer ta journée dans la prière. Planifier, travailler, réfléchir, concevoir. Prends ton temps d'inactivité ou actuellement tu n'as pas trouvé de boulot. Réfléchis à ta destinée. Écris, travaille sur toi-même. Apprends à améliorer tes compétences. Alléluia. Développe ton potentiel. Le jour où tu vas travailler, tu n'auras plus le temps de faire tous ces trucs-là. Parce que quand tu vas travailler, tu n'auras plus le temps. Mais pendant le temps qui est là, investis en toi. Investis en toi. Là, tu fais rien, tu n'as pas trouvé de travail. Va dans une librairie, achète-toi des livres et puis lis, apprends. Prends le temps, médite la parole de Dieu. Travaille ce que Dieu a déposé en toi. Deviens meilleur dans tout ce que tu fais. Jusqu'au jour où Dieu se souviendra de toi. Parce que Dieu se souvient de ses enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.